Alors des fois, ça coïncide, ça tombe juste près d'une distance, d'une mémoire sans mémoire, comme disait chez Titi, mais c'est du hasard, vous comprenez? Il n'y a rien de plus ambigu que cela. On ne peut pas ne pas être satisfait de voir cette éclosion d'un nouveau livrage, en français, ou en anglais d'ailleurs. En Amérique, c'est une maladie épidémique, mais on ne peut pas ne pas non plus être réticent ou pas bien inquiet devant cette espèce de foisonnement d'approximation qui déclenche des polémiques inutiles et qui déclenche des. Et qui se traite parfois à un antisémitisme et subtil. Je referme la parenthèse. Vous voyez à quoi je peux pas dire. Et voilà donc les deux principes. Achat, Biberelokim, Stein, Yushamarti, premier principe, richesse de l'implication. Deuxièmement, les El Nitra Yosse Midotchuto. Aucun verset ne peut être sorti de sa littéralité dans l'ouvrage. C'est clair? Bon. On peut avancer, vous avez une question. ואין לך מיכה יוצא מידי פשוטו משמעו והפרלתי, יווה, לפרטיזיון דבר פשוטו משמעו יאינים הטיפיקציון כלו פרנות אלולר פשוטו משמעו והפרלתי שדיברו על יוראיהם דיראיהם לדוגמה et bien que, au moins qu'ajout en général les prophètes ont parlé par image דיברו על יוראיהם דיראיהם לדוגמה דוגמה ça veut dire illustration, exemple. Ils nous font voir ce qu'ils veulent nous faire entendre. C'est clair ce que je dis là, okay? Ils nous donnent des dougmas, des modèles d'illustration. Alors en français, on dit par image. Okay? Je vous toute petite parenthèse qu'il y a dans le traité théologico-politique de Spinoza, une critique de la prophétie des prophètes par rapport à la parole de l'Évangile. C'est un texte, un chapitre très antinomique dans celui de Spinoza, en mettant en évidence le fait que la parole prophétique utilise l'image. Utilise l'imagination. Mais c'est la grandeur de la prophétie, c'est pas sa petitesse. Je veux dire, c'est positif, ce n'est pas négatif, comme le laisserait entendre Spinoza. C'est-à-dire, ce n'est pas que le prophète illustre par un imaginaire ce qu'il veut dire, il nous donne l'image objective qui seule peut nous faire connaître ce qu'il veut nous faire entendre. Il nous fait voir ce qu'il veut nous faire entendre. Là, ici, il y a un thème très important. Si un jour, peut-être, on consacrerait une étude à ce sujet, c'est que la philosophie se présente comme objective et s'oppose à la prophétie qui se présenterait comme subjective. C'est la thèse universitaire. En réalité, c'est l'inverse. La philosophie est subjective alors que la prophétie est objective. Et elle est objective parce qu'elle désigne la réalité alors que la philosophie est subjective parce qu'elle part par abstraction. Et ce que je vous dis là va absolument à l'encontre de toutes les habitudes de pensée de l'Occident. J'en ai bien conscience. Okay? Ça mériterait d'être étudié par un séminaire pour lui-même. Mais je vous donnerai une seule indication que nous avons déjà appris cela il y a 35 ans. C'est le fait que chaque système de philosophie, c'est la conception d'un homme. Un homme de génie, mais un homme. Alors qu'il y a convergence absolue dans toutes les paroles de tous les prophètes. C'est-à-dire le monde de la parole prophétique est cohérent, objectif, un. Alors que l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire d'une dialectique permanente de contradictions. Et là, je me réfère au schéma de Hegel, mais enfin même sans Hegel. Donc c'est une histoire où chaque système est isolé l'un de l'autre, et ce n'est que l'artificiel très médiocre du génie, du talent des professeurs de philosophie qui nous enferme ça dans la cohérence d'un manuel. Okay? Mais j'ai toujours été frappé de cela. Le professeur de philosophie, c'est un métier très honorable, j'en parle par expérience, mais c'est, vous comprenez ce que je veux dire. Le professeur de philosophie qui arrive dans sa classe et qui va traiter un thème, peu importe lequel, et puis qui va vous citer les grands. Depuis Socrate, Platon, Aristote, et puis Descartes, Descamps, et puis les grands, les géants. Et puis d'abord, il vous a dit, et moi je pense que. Et puis il vous enferme dans un chapitre bien agencé, où un tel a pensé ça, un tel a pensé ça, que faut-il en penser? Et c'est une question d'examen pour l'élève. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ce qui est évident, c'est que chaque intuition d'un système philosophique est un monde pour lui-même, absolument subjectif. Dans le monde de Spinoza, ne coïncide que Spinoza et les spinozistes qui sont des troupeaux. Je ne sais pas comment dire. Vous comprenez les... Et dans le monde de Descartes, nous ne connaissons que Descartes. Et on ne peut pas mélanger, par exemple. C'est quoi la notion d'idée chez Descartes, ou chez Platon, ou chez Hegel, ou chez quelqu'un d'autre. Et chaque système philosophique est une grammaire du monde qui a sa cohérence portée subjective absolue. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, à quel point il y avait là un. Justement, en fin de compte, mon espoir, non, c'est pas le mot, c'est trop péjoratif. Il y a quelque chose de subjectif. Voilà. On présente l'univers de la réflexion philosophique comme objectif, alors qu'il est subjectif. C'est d'ailleurs sa dignité, le génie de chaque système. Mais dès qu'on commence à confondre, c'est le tonneau d'avant. On mélange, alors ça, c'est le manuel. Et alors que le prophète parle d'un monde un, uni, et avec une parole unique qui a différents signes, mais c'est la même parole. Elle parle, elle dit la même chose, elle traite de la... D'où ça vient? Où est la différence? C'est que l'exploration philosophique, c'est l'exploration du monde des idées abstraites, alors que la parole prophétique concerne la réalité du monde concret. Concret, c'est le mot important. L'image du prophète est une image vraie, parce qu'elle illustre la réalité concrète dont le prophète parle, alors que le philosophe explore les idées. Ce monde, c'est le monde de la... Même lorsqu'il parle du monde de la réalité, il en parle au niveau du langage, de l'abstraction toujours. Et voilà donc la différence. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ah, double mal. Mais l'illustration, donc, est l'image. Alors, Rashi continue à dire, « La falpiche du vous en éveillez, d'Israël, le dougma. » Et bien que toutes les paroles, c'est moi qui dis en général. D'ailleurs, Rashi ne dit pas tout. Les prophètes ont parlé leurs paroles à travers l'illustration, « Saïr le yachev à dougma à l'ophané. » Il faut le yachev, c'est de résoudre la difficulté que peut représenter l'hermétisme d'une image dans le sens prophétique, une parole concrète, dans les différentes dimensions de sens, dans les différents points de vue, dans les différentes occurrences qui deviennent la signification. Il y a le sidra, et souvent son ordre, ça se signe, ce mot, chez Amitraos, nous dit Zéahar, dans l'ordre de la structure de l'ordre des versets. C'est-à-dire, chaque verset va nous donner le thème d'un ouvrage, qui est le fait d'isoler une des implications de ce discours, mais à travers la dogma, l'exemple d'application, d'illustration que donne la forme de chaque verset. Et le rôle du commentaire, selon Rashi, dans le genre de Rashi, le rôle du commentaire, c'est de restituer le fil conducteur de l'ordre par la succession des versets. C'est-à-dire d'ordonner le Rashi dans l'ordre du verset. Alors que l'objet du Midrash pour lui-même, c'est de isoler le thème impliqué dans le détail ponctuel de chaque verset de nous. Ce sera beaucoup plus clair dans l'étude de l'Esprit. Mais je pense que c'est ici de rentrer. Alors il va nous dire quel est le fil conducteur de son commentaire qu'il prend concernant ce livre de Shivashi. Viraïti. Et j'ai trouvé bon, j'ai vu littéralement, j'ai trouvé bon, les ferragés en ce qui concerne ce livre, de Shir HaShirim, Kama Midrashé Agada. J'ai appris énormément, beaucoup, tant de Midrashim de la Agada. Yesh Sedurim Kola Sefer Azeh et Midrashé Chad, certains traitent de l'ensemble du sujet du livre en un seul Midrash, et Yesh Mefuzarim Kama Midrashé Agada Mikraot Levadam. Et certains étudient au contraire chaque verset pour lui-même, par méthode isolée. L'un de l'autre. Et Namityashvim al-Lashon Amikra et le lien entre le contenu du Midrash et l'expression du texte n'est pas évident, mais Seder Amikraot et pas non plus l'ordre des versets, la Marti de Livi, Litfos Mashmaot Amikra. Et je me suis donné comme projet de saisir et d'exprimer la signification de ce texte, les Hachev Bihuram al-Sidram, de donner le sens du Midrash par rapport à la lecture en commentaire de l'ensemble du texte de Shir HaShirim, et non pas encore une fois chaque midrash ponctuellement pour lui-même, c'est un midrashot mirabotenu, à kaveh el midrash ou midrash ishi vinkumu. Et c'est pourquoi je vais ordonner les midrashim de nos maîtres, par exemple dans le Talmud, à propos d'un thème général, on citera à l'appui la forme d'un verset de tel ou tel de la Bible, à l'occasion ici du Shir HaShirim, pour éclairer le thème que le Talmud étudie pour lui-même. Alors, sur ce point, Rashi va. Un peu que la méthode inverse, il va utiliser les midrashim qui étaient donnés à l'appui de thème généraux de la musique pour prendre compte de l'ordonnance des versets et de lecture continue et aussi discontinue des chapitres ici dans chez Rachid. Et voilà le thème choisi par Rachid. De Homérani, chez Rachid, le mot de Roi HaKadosh, que Salomon a lu par l'inspiration du Roi HaKadosh, de l'Esprit des Saintetés, chez Atidin Israël et Galot, Gola Ahar Gola, que Salomon a vu que Israël était destiné d'aller en exil, exil après exil. Alors, rapprochons-nous du sens immédiat, total, des termes employés par Rachid. Qui est Salomon qui nous donne ce chant d'amour? C'est le roi d'Israël qui a connu Israël à son apogée. Le règne du roi David a constitué la nation d'Israël et c'est Salomon qui est le roi d'Israël à son apogée. Dans l'époque de Géoula, du contraire de la Galilée, dans l'époque d'indépendance, de prospérité et d'apogée la plus grande. C'est la pleine lune de l'histoire d'Israël. Vous savez que les rythmes de l'histoire d'Israël sont comptés sur la tradition d'après le rythme de la lune, celui d'un recommencement perpétuel. Recommencement, c'est, ça nous renvoie à une idée un peu trop de temps cyclique, c'est pas ça. Celui de Itrachou, Tridouche, renouvellement perpétuel. Non pas recommencement, mais Tridouche, renouvellement qui apporte quelque chose de nouveau, littéralement, chaque fois, dans la permanence, permanente. Itrachou. Et on a donné donc comme rythme principal de Abraham à David, il y a 14 générations, c'est la pleine lune, le 14e jour du mois lunaire. Et donc, l'expérience de Salomon, c'est l'expérience de l'apogée. Alors il sait que, il a connu cela, que, à partir de là, Israël va être donné à des églises. Donc, le Romain Annie, chez Rach, le monde de voir que des chez Atidim Israël, les galotes, Gola, Ahar Gola, Chorban, Ahar Chorban, destruction après destruction. L'itonène qui se plaint dans la Galoute, mais avec Kéroda Manichon, en ce qui concerne ce qu'a été leur gloire antérieure. Ça veut dire, Salomon, et il est l'homme qui est capable de pouvoir exprimer ce discours à cause de ce qu'a été le privilège de sa vie. Il a connu cela, non pas subjectivement, mais en tant que sujet de cette expérience, et il en parle à titre absolu, de l'absolu, de la relation d'amour connue par la conscience hébraïque. Mais en projetant cela dans l'avenir, il va dire ce que sera la parole de nostalgie de l'amour non pas perdu, mais occulté. Et voilà comment Israël. Les fiançailles après le mariage, c'est un concept difficile à définir. Nous savons ce que sont les fiançailles avant le mariage, mais là il s'agit de fiançailles après le mariage. C'est pas un veuvage, bien que le mot de veuvage, divorçage, comment on dit pour veuvage, séparation. Non, c'est pas un veuvage, c'est pas une séparation, c'est un temps de fiançailles, mais qui viendrait après le mariage. Comme il y a eu le mariage, alors on se rappelle de ce qu'étaient les fiançailles d'avant, mais on en parle comme si c'était les fiançailles d'après. Donc, vous comprenez quelle est la dougouma, l'illustration historique. Il y a eu le temps de l'apogée, de la coprésence entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire entre l'humanité à travers Israël et son créateur. L'amour dans la maison de l'amour qui était le temple. En Eretz Israël, à Jérusalem. Et Salomon a vécu cela, mais il voit ce que sera, comment sera dit cet amour lorsque tout cela sera détruit. Lorsque lui est là, elle se cache, lorsque elle est là, lui se cache, dans la situation d'exil. Mais que ce n'est pas, je n'arrive pas à exprimer ça autrement, qu'en disant fiançailles d'après le mariage. Refiançailles, si vous voulez. Non, ce n'est pas refiançailles. Il n'y a jamais eu divorce, il n'y a jamais eu veuvage, il y a situation de séparation, il y a situation de veuvage. Mais on sait qu'est-ce que c'était cette situation de non-rencontre encore, lorsqu'elle était positive dans l'espérance, au temps des fiançailles. Il s'agit donc vraiment d'un amour de fiançailles d'après le mariage. Peut-être que c'est l'amour par excellence. Alors donc, l'itonène, se plaindre. Plaindre, l'itonène, c'est dire des élégies, pleurer sur. Al-Kurodam Rishon, de la gloire première, de l'iskor Shiba Rishona, et de se souvenir de la première affection. Affection dans le sens de amour de fiançailles. Asherayou, למלך מולקו של עולם, כי זה מקדומה, אבק לרוע, כי יהיה לרוע דימון, c'est que l'ami Kolarami, alors que vous êtes l'élu parmi tous les peuples, mais faites attention dans ce terme de élu. Okay? C'est que là parmi Kolarami, ça veut dire que de tous les peuples, à partir de tous les peuples, Israël est choisi dans la confirmation de cette alliance entre le Créateur et son monde. L'Omar, en disant, voilà quel est le thème général de ce chant d'amour de nostalgie. Elecha ve'ashuva elishi arishon. L'exigence de cette délivrance de la situation d'exil, j'irai et je reviendrai à mon premier mari, à mon mari qui est mon mari du premier temps. Le premier temps, ici, ish, ça veut dire l'époux, puisque le mari. Qui t'obli azmeata, car j'étais mieux alors que maintenant, viskeru et hemdav, et hasadav, et ils se rappelleront de hesed. Comment va-t-il ici? Non, avoir des bontés pour quelqu'un.
C'est ce qui me donnait.
Dans le langage d'amour.
Oui.
C'est ce qui me donnait.
Oui. Et chassada, ça veut dire quand que. Je crois qu'en français, ça s'emploie pour la femme, pour l'homme, mais ça peut s'employer aussi dans le sens inverse. Avoir des bontés pour quelqu'un. Donc, la grâce des fiançailles, les.
Voilà.
Et tout la peine qu'ils ont eue. Et inversement, tout le bien, Asher Amar Latidlaïm qui leur a promis de leur donner dans les promesses des prophètes, Bahari Tayamim à la fin des temps. C'est-à-dire une dialectique entre la nostalgie de ce qui a été vécu dans le passé et l'espérance de ce qui a été promis pour l'avenir. Et à ça, c'est fait raser le roi Hakodesh. Et le roi Salomon a fondé ce livre par l'inspiration. Bichon Isha, dans le style d'une femme qui est dans son veuvage, et Yot Shemishtokeket al-Bala, parce qu'elle est en nostalgie par rapport à son époux, Mitrapeket al-Doda, elle gémit dans l'appel de son bien-aimé, Maskeret Aravat Neoréa, elle se souvient de l'amour de sa jeunesse pour lui, Moda al-Pishra, et reconnaît sa faute, Afdoda Tsarlo, inversement, son bien-aimé aussi est dans l'affliction de son affliction à elle, Maskir Hasbene Orea, et se souvient du prix qu'elle avait pour lui dans sa jeunesse, Ve Noi Yopia, et du paysage de sa beauté, c'est joli comme expression, de Kishron Fealea, et de sa compétence dans l'amour, Asher Daen Miksha Ima Be'ahava Aza, par lequel il était attaché à elle par un amour absolu, un amour fort, Léodia, pour lui faire savoir qu'il nomine Ina, que ce n'est pas lui qui a eu l'intention de la mettre dans la fiction, de lui faire du mal. Et que son divorce n'est pas un divorce, qu'il ne s'agit pas d'un divorce. Qui a dit, elle est encore sa femme, Léodia et lui son époux, Léodia Atib la Chouvelea, et qui, dans l'avenir, il reviendra à elle. Donc, c'est bien le chant d'amour réciproque, mais dans la situation de séparation, et plein de la connaissance de ce qu'a été l'amour total, et de l'espérance de ce que sera de nouveau, cet amour dévoilé et total. Alors, nous suivrons donc ces analyses de détails, avec le postulat de lecture suivant, je reprends le point très, très, très rapide de l'introduction générale tout à l'heure, pour la tradition midrashique, il ne s'agit pas d'un chant érotique sur lequel, parce qu'il est tellement beau, on a fixé ou projeté une signification mystique de l'amour religieux, ce n'est pas non plus un chant religieux qui s'exprime dans le langage de l'amour humain parce qu'il n'y en a pas d'autre, pour dire amour, c'est l'amour. Cette discussion est absolument artificielle dans la perspective talmudique et midrashique, parce que l'amour vrai et la relation religieuse vraie, c'est la même chose. C'est le langage unique qui dit mêmement, en même temps, la même chose. L'amour, c'est la sainteté absolue, et la sainteté, c'est l'amour absolu dans le même registre. Nous allons tout de suite commencer l'étude de détail du Midrash par un enseignement de Rabbi Akiva à ce sujet. Alors prenez la même feuille, et on va prendre le premier Midrash. Je lis d'abord le Midrash, et on va l'étudier expression par expression. Alors, Shira Shiri, Non, nous ne sommes pas, je précise bien, nous ne sommes pas en cours d'exégèse. Nous ne sommes pas en laboratoire. Pas laboratoire. Comment on dit dans une. En travaux pratiques de traduction. Bien. Mais nous sommes en étude du Midrash. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train d'essayer d'élaborer une nouvelle traduction du Midrash en français. Ça, André Chouraki en a donné une qui est excellente pour le français. Je crois que Mechonik en a donné aussi une autre. Et puis il y en a d'autres. Codel, je crois, en a fait une. L'objectif, c'est d'étudier le Midrash. Alors, le premier verset, c'est Shir Ashirim Asher Lishlomo. Chant des chants qui appartient à Salomon. Asher, qui concerne, qui est à Salomon. Sur l'expression Shir Ashirim Asher Lishlomo, voilà ce que Rabbi Akiva enseigne. Amar Rabbi Akiva, vous suivez, En Kola Olam Kedai, le monde n'était pas comme il devrait être, le monde n'est devenu comme il devait être, le monde n'était Kedai. Valable, valant la peine d'être, Kedai, Ken, c'est deux choses simultanément, conforme à son projet et digne du projet, on se situe jusqu'au moment où le monde n'a été, Ken, et Olam Kedai, Keyom, comme le jour, chez Nitan Bo Shirashirim, où le Shirashirim a été donné. C'est-à-dire, le monde n'était pas le monde tel que Dieu voulait le créer, tant que Shir HaShirim n'a pas été dit dans ce monde, tant que ce livre, tel qu'il nous a été déjà décrit par Rashi, n'a pas été dit. Et voilà comment on explique Rabbi Akiva. Tant que le Shir HaShirim n'a pas été donné à Israël, les filles, Shekola Ktuvim Kodesh, le Shir HaShirim Kodesh Kodashi. Parce que tous les textes de la Bible, les Ktuvim, les écritures entre guillemets, sont saints, des livres de sainteté, mais Shir HaShirim, c'est la sainteté des saintetés. Alors nous allons essayer de comprendre cet enseignement du Midrash en nous posant un problème d'exégèse. C'est-à-dire au fond, Rabbi Akiva nous transmet à la fois une idée, c'est que la sainteté du Shir HaShirim est supérieure à tous les autres écrits de la Bible. Et vous voyez, c'est plus que de l'humour, c'est plus que paradoxal, alors que les historiens de l'exégèse discutent de savoir si on peut accorder quoi que ce soit de sainteté à ce livre qui leur apparaît comme érotique, qu'est-ce que dit Rabbi Akiva ? Tous les autres livres de la Bible, c'est rien à côté de la sainteté de celui-là. Vous voyez le renversement de la problématique. Donc, Rabbi Akiva nous enseigne une idée, un principe, mais à travers un problème d'exégèse. Je vais donc partir du problème d'exégèse, et c'est tout simplement, pour arriver à l'idée qu'enseigne Rabbi Akiva, et c'est tout simplement la lecture de l'expression Shir HaShirim. Je sais pas pourquoi j'ai mis le voyage, mais enfin, bref. De Shir HaShirim. Vous avez, dans la même page, au bas de la page, nous allons lire le troisième midrash. Mahu Shir HaShirim. Qu'est-ce que ça veut dire, le chant des chants? Il faut lire à Meshudar Shir HaShirim, le plus loup, digne de louange de tous les chants. Amer Oulé Shebeshirim, le supérieur de tous les chants. Amer Sulsal Shebeshirim, le plus pur de tous les chants. Le plus. Parfait, si vous voulez, Ken. Et pourquoi? Les filles Shebekol HaShirim, parce que dans chacun des chants, O Akadosh Baruch Hu Mekalef Israël, où c'est Dieu qui parle et qui dit la louange d'Israël, c'est Dieu qui dit à Israël, je t'aime, ô Israël, mais calcinoto. Ou bien c'est Israël qui lui dit sa louange et qui lui fait une déclaration, si j'ose dire. Et on nous donne des exemples. Béchirat Moshe, le thème général. Prenons par exemple deux des livres du Tanakh, les cinq livres de Moïse et les cinq livres d'Epsom. Dans les cinq livres de Moïse, c'est Dieu qui se révèle à Israël. Dans les cinq livres d'Epsom, c'est Israël qui parle à Dieu. Quel est le cas particulier de Shir HaShirim? Il y a l'un et l'autre. En nous basant sur ce deuxième midrash, nous pourrons mieux approfondir le premier. Mais quelle est l'intention du midrash? Ce n'est pas de nous dire qu'on traduise beaucoup de traducteurs, et je pense qu'en général, les traducteurs ont retenu cette leçon, mais qui est encore approximative par rapport à l'enseignement du midrash. Que c'est le meilleur des chants. Shir HaShirim, le chant des chants, le chant par excellence. Okay? En général, je crois que les traducteurs se sont arrêtés là.
Et c'est pas ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit, c'est le chant par excellence, mais pourquoi? Parce que dans tous les chants, l'un parle à l'autre. Mais là, les deux se parlent. Alors je vais essayer de vous faire l'exégèse plus stricte en hébreu. Et tout simplement que apparaît ici une règle que nous n'avons pas dans la grammaire française. Le superlatif, en français, c'est le superlatif de l'adjectif. Tandis qu'ici, il y a l'idée d'un superlatif du substantif. Hein? Le chant des chants. Mais je crois que l'intention de Rabbi Akiva, d'après ce Midrash, c'est très clair, c'est de nous dire ceci. Je ne sais pas comment vous formulez ça par image. Disons A et B. A, M, B et B, M, A. Quand A, M, B, il y a un chant, Shir. Quand il dit B, M, A, il y a un chant, Shir. Okay? Alors il y a le chant d'amour quand lui parle à elle. Le chant d'amour quand elle parle à lui. Mais il y a le chant qui apparaît de ces deux chants-là, qui est le Shir Hashem. Je ne sais pas si vous avez suffisamment bien. C'est-à-dire que c'est un chant exceptionnel, au-delà de tout. Ameshubar Shebeshirim, Ameroulé Shebeshirim. C'est le chant qui apparaît lorsque les deux chants se chantent l'un à l'autre. Je ne sais pas si on peut exprimer ça autrement que par en suggérant. Oui, c'est-à-dire que. Bon, je pense que c'est clair. Vous voyez comment c'est absolument à la lettre dans le texte. C'est le Shir Hashirim, le chant des deux chants. Lorsque les deux chants s'adressent vraiment l'un à l'autre, alors apparaît un troisième chant qui n'est ni le premier ni le deuxième. Et c'est lui, ce chant-là, qui est le chant par excellence. Non pas qu'il y aurait, s'il y a une pyramide de valeurs, deux chants de même nature, mais de degrés différents, et qu'au sommet, il y ait le chant des chants. Ça, c'est l'erreur des traducteurs. C'est pas ce que le Midrash veut dire. En disant le chant par excellence, c'est pas le chant supérieur, mais du même genre dans le plus haut niveau. Non, c'est un chant d'une nature différente. Parce que tous les livres sont ou ce chant-là, mais là il y a le chant qui procède des deux chants là. C'est le Shir des chants, le chant des chants eux-mêmes, et pas de ceux qui chantent. C'est le Shir Hashirim. Est-ce que c'est clair? Peut-être je dirais ça comme ça, mais c'est vraiment qu'une image pour le moment, à moins qu'on trouve une confirmation dans les règles. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a lui et elle, okay? Eh bien, il y a le chant de lui et il y a le chant de elle. Mais finalement, il y a le chant d'un troisième qui est l'union des deux. Donc, c'est le chant du fils, de l'enfant. C'est clair? Le Shir Hashirim, finalement, parce que là, si vraiment ça colle, alors il y aura un mariage. Alors lui c'est le père et elle c'est la mère. Mais le Shir Hashirim, c'est le chant de l'enfant. De l'enfant de l'amour. De l'enfant qu'on estime. On voit pourquoi c'est Salomon qui a pu chanter. David, Moïse, et puis voilà que Salomon apparaît. Top. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ah, j'entends pas. Non, plus que ça. Parce que, comment dire, lui, attendez. C'est déjà dans les deux premières chances que vous dites. Lui qui l'aime, à elle, sait qu'elle l'aime. Par conséquent, son chant n'est pas le chant d'un amour non réciproque. C'est le chant d'un amour réciproque. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, pour elle. Cette réciprocité est déjà dans les deux chants d'amour. Mais il s'agit dans le Shir Hashirim d'une sainteté qui est au-delà de la sainteté de tous les autres chants, parce qu'il y a les deux à la fois.
Un peu le nous, si on veut. Le nous par rapport à elle et lui.
Non, parce que ce lui et ce elle, c'est le lui et le elle d'un nous. C'est pas encore. Vous voyez?
Ben, si c'est quelque chose qui n'existe pas, on ne peut pas trouver.
Ça existe. Mais c'est hébraïque seulement. l'idée, vous pouvez la comprendre. Okay? Mais je veux dire que ça va au-delà de la traduction habituelle qui est celle d'un superlatif. Là, il y a autre chose. Et c'est ce que dit Rabbi Akiva. Vous comprenez que c'est très parallèle à la notion de Kodesh à Kodashim. Il y a le Kodesh, et puis il y a le Kodesh à Kodashim. Comme il y a le Shir Hashirim. Et dimanche, ce même rassemblement va nous parler du Hever HaValim, de vanité des vanités. Mais ça, c'est une expression propre à l'hébreu et qui est très parallèle. Mais ce n'est pas seulement le superlatif. C'est au-delà. C'est d'une nature différente. Bon, ça a été suffisamment clair? Et dans les livres de la prophétie.